오늘 하나님의 말씀은
La parole de Dieu se trouve dans l'Exode chapitre 3, Exode 3, 13-14. Lisons à tour de rôle. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Prions pour pouvoir recevoir la parole de vie. Et pour pouvoir y obéir par la foi, et béni pour l'évêque Sonhyun Kim, pour qu'il soit soutenu par le Saint-Esprit et pour qu'il puisse avoir la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Prions tous ensemble.
Dieu
le Père, à ce jour saint, au jour du Seigneur, tu veux nous, donne-nous la parole de vie et puis agis fortement sur ton serviteur que tu as établi pour qu'il puisse transmettre ton cœur, la voix des cieux, et que toutes les âmes qui reçoivent ta parole soient dominées par toi pour pouvoir t'accueillir et qu'il soit tout prêt physiquement et mentalement pour pouvoir t'accueillir et que ta volonté éternelle soit profondément gravée dans nos cœurs. Je prie au nom de Jésus. Celui qui existe de par lui-même, lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est le seul qui existe de par lui-même dès avant l'éternité et vit éternellement. Lui, le Créateur, soutient toutes les créatures au moyen de sa parole, les gouverne et prend soin d'elles. L'humanité, néanmoins, a commis le grand péché de délaisser Dieu et de vivre à sa guise. Et même après l'habitude invétérée de vouloir vivre sans Dieu lui étant resté, il peut s'échapper du joug du péché. Le Christ, la parole de Dieu qui devint chair, vint en ce monde, nous remit notre lourd péché de vouloir vivre par nous-mêmes, mais aussi pour nous permettre de vaincre la puissance de ce péché, nous garde dans son sein et nous guide par la parole. Nous sommes le corps glorieux du Seigneur, dont le devoir est de conduire les âmes du monde dans la grâce de Dieu. Fermons correctement les premiers boutons de notre foi avec la dîme, que nos pensées, nos actes, par la foi qui dépend de la grâce et de la faveur de Dieu, forment un seul corps. En prenant soin des saints avec amour et intérêt, efforçons-nous de devenir une église d'une force admirable. Faisons de Jésus-Christ le point focal de notre vie. Les gens de ce monde considèrent les chrétiens comme des minoritaires. Et par le passé, ça se faisait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ceux qui croient bien en Jésus, ceux qui sont passionnés pour Jésus ont été considérés comme des minoritaires, comme des marginalisés. Mais est-ce que les chrétiens sont marginalisés dans la société? Mais je pense que ceux qui considèrent les chrétiens comme minoritaires sont eux, en fait, des minoritaires. Parce que je pense que les chrétiens jouent le rôle de centre dans la société, voire dans cet univers. Je pense que les gens de ce monde sont des minoritaires en réalité. Donc, pour que vous puissiez comprendre cela, je vais prêcher un sermon qui vous permettra de mieux comprendre ceci. Notre Dieu est le Dieu qui existe par lui-même. Notre Dieu, le Père lui-même, nous a expliqué son statut en disant qu'il existe par lui-même. Cette expression est assez lourde. Cela signifie que notre Dieu n'a pas été créé, il existait de par lui-même depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Alors notre Dieu est un Dieu éternel. Ce n'est pas la peine d'ajouter d'autres explications. Il a dit tout simplement, je suis celui qui suis. Pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'il voulait nous manifester que celui peut exister par lui-même. Donc il a dit tout simplement, je suis qui je suis. Donc il n'a pas essayé d'ajouter d'autres explications à cela. Lorsque nous écoutons cette parole-là, nous pouvons comprendre facilement que seul lui peut exister par lui-même. Lui seul peut exister de par lui-même. Et puis, il existe depuis le début. Il n'a pas été créé. Il existe tout simplement. Et il n'y avait, lorsqu'il n'y a eu aucune créature, il était seul. En théorie, avant que la création se fasse, il était seul. Même avant qu'aucun espace ne soit créé, il était seul, il existait. Avant que la création se fasse, il était seul, il existait seul. Donc, toutes les créatures ne peuvent qu'exister en Dieu. Notre Dieu n'est pas l'un de nombreux dieux. Il ne faut pas expliquer notre Dieu d'une telle manière parce que notre Dieu est absolu. Il est grand. De ce point de vue, aucun Dieu ne peut être comparé avec notre Dieu le Père. Il est unique. Il est seul. Il existe seul. Et il est le Créateur. Je suis qui je suis. Cela signifie que je suis le Créateur. C'est ainsi, c'était de telle sorte que notre Dieu a expliqué lui-même. Et ce Dieu qui a été rencontré par Moïse sur le mont Sinaï, parmi les épines. C'était un moment historique. Et voilà, alors ce moment est devenu un moment de critère pour nous. Et alors, cela nous permet d'expliquer Dieu le Père. Alors, on sait très bien quel Dieu a été servi par les Israélites. Notre Dieu est celui qui existe par lui-même. Il est unique. Il a tout créé. C'est lui qui est le Créateur. Celui qui existe par lui-même a créé toutes choses. Toutes choses viennent de Dieu, qui est le Créateur. Toutes choses appartiennent à notre Dieu et toutes choses ont été créées pour notre Dieu le Père. Alors, ceci a été déjà mentionné dans la Bible à partir de la Genèse. La Bible parle d'abord de la création de Dieu. Dans les premières phrases de la Bible disent que c'est Dieu qui a tout créé. Donc, la Bible commence par la création de Dieu. Donc, notre Dieu qui est le Créateur, c'est lui qui possède tout. C'est cela la vérité et ceci est la base de la loi. La loi a été écrite autour de Dieu qui est le Créateur. Les Israélites ont appris un tel Dieu dès leur enfance. Même un petit enfant sait que c'est Dieu qui a tout créé. La Bible nous en parle à nombreuses reprises. Si vous regardez la Bible, on peut lire que les cieux, la terre, tout ce qui se trouve appartiennent à Dieu. Voilà, donc ce genre de paroles sont bien mentionnées dans la Bible. Notre Dieu est l'Éternel, les cieux des cieux, la lune, le soleil, la mer, tout ce qui se trouve ont été créés par notre Dieu. Et c'est notre Dieu qui les préserve. Il a tout créé. Et en plus, il les préserve, il s'en occupe, il les aire. Alors, tous les anges l'adorent donc. Donc, toutes choses sont gérées par lui. Toutes choses ont été créées, gérées par lui. Alors, toutes les créatures savent que c'est Dieu qui est le gérant, le créateur. Lui seul accomplit sa volonté de par lui-même. Et la Bible dit aussi que tous ceux qui sont conduits par le Dieu qui existe par lui-même sont en vie, reçoivent la grâce de Dieu. Mais ceux qui quittent Dieu ne sont pas en vie pour périr. Voilà, c'est ce dont parle la Bible. Donc, si vous avez déjà lu la Bible, vous êtes déjà au courant de cela, parce que la Bible en parle de manière répétée. Notre Dieu existe par lui-même. Donc, tous ceux qui sont sous sa protection, sous sa conduite, sous sa parole, dans sa parole, peuvent vivre et être aimés de lui. Donc, celui qui vit par la parole de Dieu est normal. Parce que notre Dieu existe par lui-même. Donc, les créatures doivent être sous sa protection. C'est ce qui est normal. Mais le problème, c'est que la plupart des gens de ce monde ne sont pas normaux parce qu'ils ne sont pas sous la protection de Dieu. L'Israël a mené beaucoup de guerres. Donc, les Israélites ont tué beaucoup de vies parce qu'ils ont expérimenté beaucoup de guerres. Mais en fait, ce n'était pas un crime. Ils vivaient par la parole de Dieu. Ils en dépendaient. Mais les païens qui ont mené des guerres avec Israël vivaient sans Dieu. La Bible parle quoi en fait? Et ce qui est important, c'est est-ce que c'est Israël ou pas? Est-ce que ça appartient à Israël ou pas? C'est ce qui importe selon la Bible. Parce que Dieu s'intéresse seulement à Israël. Seul Israël pouvait recevoir la grâce de Dieu qui existait de par lui-même. Donc ce qui importait, c'est simplement d'appartenir à Israël ou pas. Et les autres questions n'étaient pas importantes. Alors, ceux qui ont vécu sans Dieu ont péri. Par exemple, Sodome et Gomorre. Et les gens de Sodome et de Gomorre ont tous péri par manque de dix justes. Donc, sauf la famille de Lot, tous ont été sacrifiés. Tous ont péri. Si on comprend bien la Bible, ce n'était pas un sujet de tristesse. En fait, c'était la justice de Dieu. Alors, comment peut-on quitter Dieu? Alors, quitter Dieu, ce n'est pas normal. Le monde n'est pas normal. Alors, il est difficile de voir les gens qui vivent d'une manière normale. Pourquoi on vit une telle situation? Le monde est tombé malade. Et pourquoi le monde est tombé malade? Il y a eu une cause qui fait tomber malade le monde entier. Et en fait, il y a eu un accident au jardin d'Éden. Qui sont les responsables de cet accident? Parce que ce qui s'est passé au jardin d'Éden a rendu malade tous les hommes. Parce que l'homme a essayé de vivre selon ses propres pensées. L'homme a essayé de quitter Dieu pour vivre par lui-même. Et alors, pourquoi l'homme s'est raisonné d'une telle manière? C'est parce que le diable a utilisé un serpent pour séduire Ève. Le serpent a dit à Ève, « Est-ce que Dieu t'a interdit de manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ?» Le serpent lui a dit, « Pourquoi Dieu t'a interdit de le faire ? C'est parce que si tu en manges, tu pourras vivre comme lui. C'est pourquoi Dieu t'a interdit de t'approcher de cet arbre. » Lorsque Ève a regardé ses fruits, en fait, ses fruits avaient l'air très spéciaux. Donc, Ève en a mangé. Ève possédait la vie avant d'en manger, mais au moment où Ève en a mangé, elle est morte. À partir de ce moment-là, l'homme a commencé à quitter Dieu. C'est ainsi que les hommes ont commencé à mener le chemin de la mort pour vivre sans Dieu. Donc voilà, c'est ainsi que les hommes ont commencé à vivre sans Dieu, à s'éloigner de Dieu. Alors, ceci est devenu normal pour les hommes. Il est devenu normal de quitter Dieu, de vivre sans Dieu. Donc, le mal des hommes est atteint le maximum. Donc, Dieu a décidé de faire périr tous les hommes par l'eau. Donc, l'homme a continué de vivre d'une telle manière. Par exemple, les hommes ont essayé de construire une tour Babel. C'était l'un des témoignages que les hommes ont préféré vivre sans Dieu. Avec la construction de cette tour Babel, le nombre de langues est devenu nombreux. Les hommes ont ainsi essayé de vivre sans Dieu et voilà, ils ont ainsi comment la perdition s'est approchée des hommes. Mais il faut que nous découvrions un espoir. Et en fait, c'était Abraham qui a trouvé un espoir. Qui était Abraham? Il était riche. Il était rempli de sagesse. En fait, il était quelqu'un qui détenait une grande force et qui pouvait vivre de par lui-même. Mais malgré ses atouts, il craignait Dieu, il le respectait. Alors, il savait se soumettre à Dieu. Il était très fidèle à Dieu. Et toute sa vie, il a vécu d'une telle manière. Et en fait, il y a eu beaucoup d'événements qui prouvaient que Abraham était quelqu'un qui croyait totalement en Dieu. Par exemple, concernant la dîme, il a donné le dixième de ses revenus à Melchizedek. Et puis, il a dédié son fils unique à Dieu. C'est ainsi qu'il a prouvé sa foi. Et il a servi des anges. Et en fait, il ne manquait de rien parce qu'il était riche, il était fort. Mais il a bien servi des anges de Dieu. C'est ainsi qu'il a montré sa particularité à Dieu. Et donc, il était spécial, en fait. Il était différent des autres de sa région où se trouvaient Sodome et Gomorre. Les gens de Gomorre et de Gomorre se sont corrompus, sauf Abraham. Abraham n'a pas été pollué par cette culture. Il était très, très sensible à la parole de Dieu. Et en fait, il s'est considéré comme très petit devant Dieu. Et en fait, Dieu est apparu devant Moïse en disant « Je suis qui je suis ». Et Dieu s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et comme celui qui existait de par lui-même. Voilà, donc c'est ainsi que Moïse, le peuple d'Israël, ont pu accéder à la connaissance de Dieu. En fait, Dieu s'est présenté comme celui qui suit, qui existe de par lui-même. Et après quoi, le peuple d'Israël a commencé à vivre selon la parole de Dieu. Seulement selon la parole de Dieu. La vie d'Israélite était très spéciale. Alors, qu'est-ce que attend Dieu d'Israélite? Deutéronome chapitre 10, verset 12. Deutéronome 10, 12 et 15. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici qu'à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux des cieux, la terre, tout ce qui se trouve. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur descendance. C'est vous qui la choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que attendait Dieu d'Israël? Il voulait que les Israélites le craignaient et vivaient sincèrement devant Dieu. Du point de vue de Dieu, en fait, Dieu voulait rendre heureux les Israélites. C'est pourquoi il leur a demandé de vivre d'une telle manière. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Toutes choses lui appartiennent. Donc, il est vraiment grand. Hein? Mais les pères d'Israël ont été aimés de Dieu, appréciés de Dieu. Donc, c'est pourquoi Dieu a choisi les Israélites pour qu'ils vivent ainsi. Qu'est-ce qu'il voulait, en fait? Dieu voulait que les Israélites vivent en lui, soient attachés à lui, vivent seulement par sa grâce. C'est ce qu'il attend des Israélites. C'est comme ça que nous vivons, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent « Dieu n'est pas juste, c'est pourquoi il y a tant de tribulations, pourquoi Dieu ne m'aide pas, pourquoi Dieu n'est pas juste, pourquoi Dieu ne m'aide pas, pourquoi Dieu ne n'aide pas ces personnes en péril ?» C'est ce qu'on dit, mais il ne faut pas dire à tort que notre Dieu est un Dieu qui est humanitaire. Mais il ne faut pas avoir une telle pensée parce que notre Dieu dépasse nos idées, nos idéologies. Est-ce qu'on doit toujours s'attacher à Dieu? Il faut que nous utilisions notre raison, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas le droit de périr? Est-ce qu'on n'a pas le droit de périr? Pourquoi on doit s'attacher seulement à l'Église? Pourquoi on doit s'attacher seulement à Dieu? Il faut qu'on sache vivre librement. On a le droit d'aller en enfer, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on peut dire. Il est normal de le dire. Mais en fait, le monde a été corrompu depuis le début parce que c'est le diable qui a agi dans le monde. Alors, le diable a agi pour que les hommes s'éloignent de Dieu. Dieu a donné une loi à Israël pour il a ainsi commandé à Israël de vivre dans un certain cadre qui était la loi. Donc la loi est venue à Israël. Psaume 119, 90-91. A toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, ta fidélité dure de génération en génération, tu as affirmé la terre et elle subsiste. C'est après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car tous sont à ton service. Voilà, il est dit, c'est après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car tous sont à ton service. Si ta loi n'avait pas fait mes délices, j'aurais alors péri dans mon malheur. Je n'oublierai jamais tes statuts, car par eux, tu me fais vivre. Ta loi me fait vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes statuts. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour ma méditation. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes préceptes font ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes statuts. Je retiens mon pied loin de toute ma mauvaise voie afin d'observer ta parole. Je ne m'écarte pas de tes ordonnances, car c'est toi qui m'instruis que tes promesses sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche. Par tes statuts, je deviens intelligent. Aussi, je déteste toute voie de fausseté. Donc, les Israélites vivaient seulement selon la parole de Dieu, après avoir reçu la loi. Donc, devant celui qui existe de par lui-même, l'Israélite n'essaie pas d'exister de par eux-mêmes. Devant celui qui vit, qui existe par lui-même, l'Israélite dépendait totalement de sa loi. C'est ce que demande la loi. Dieu ne veut pas ôter de nous quelque chose. Dieu ne veut pas nous rendre difficiles, mais il nous donne la vie. Il donne la vie et il est rempli de compassion envers les hommes. Il veut nous donner la vie. Il veut nous donner la respiration. Donc, si on respire, c'est parce que Dieu nous a permis de respirer. Et il lui donne toutes choses qui appartiennent à Dieu. C'est parce que toutes choses lui appartiennent, il les nous donne. Donc, il faut que nous pensions toujours à lui. Hein? Il faut que nous pensions toujours à son existence, à sa grâce, à son amour. Il faut qu'on obtienne la vie, la respiration et toutes choses en dépendant de lui. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire? Il faut que nous vivions seulement de par lui. Il faut qu'on décide de vivre d'une telle manière. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, et notre garant est celui qui nous encourage. Il ne faut pas que nous vivions de par nous-mêmes. Jésus-Christ est venu pour faire en sorte que nous vivions de par celui qui existe de par lui-même. C'est ça l'objectif de sa venue. Et lorsqu'il est venu dans ce monde, il a lavé les pieds des pécheurs et ensuite il a été sacrifié pour nous donner en rançon pour purifier les péchés des hommes. Il est monté dans les cieux. Ensuite, il le défend et il prie en notre faveur nuit et jour et nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'on ne soit pas seul dans ce monde. Il a vécu avec les hommes. Il est venu sur cette terre et il vient, il vit avec nous. Et il fournit son sang et sa chair sans cesse. Mais notre Seigneur Jésus n'est pas quelqu'un de petit. Il est dit dans la Bible, toutes choses viennent de notre Dieu le Père, et c'est pour lui que nous vivons, nous existons. Mais il y a un Seigneur de qui toutes choses viennent, y compris nous-mêmes. Donc le Fils de Dieu est égal à Dieu le Père et ils bougent ensemble. Le Christ est au-dessus de toutes choses. Le Christ est le Dieu qui est digne d'être loué. C'est ce qu'il dit dans Romains. Donc, Dieu a établi son Fils comme son héritier. C'est pour lui qu'il a créé toutes choses. Et lui, il est la représentation de l'être de Dieu le Père. Et le Fils de Dieu soutient toutes choses par sa parole de puissance. Donc, c'est lui qui régit toutes choses et c'est lui qui purifie les pécheurs. Ensuite, c'est lui qui s'est assis sur le trône élevé. Donc, notre Seigneur Jésus est un grand Dieu. Il est un grand Dieu, mais lorsqu'il est venu dans ce monde, il n'est pas venu pour juger, mais pour aider les hommes, pour pallier à nos faiblesses. Il est venu pour celui qui existe de par lui-même est un grand Dieu, donc il peut faire périr tous ceux qui le haïssent. Mais par contre, notre Seigneur Jésus est venu pour nous pardonner de nos péchés. Hein. Et il a fait en sorte que nous dépendions entièrement de lui. En fait, il nous aide à posséder une grande foi et il nous aide à mener une vie publique. Et il a fait de nous les enfants de Dieu. Donc, il faut que nous soyons dignes de recevoir la grâce de Dieu en étant en Jésus-Christ. Voilà, c'est cela l'Église. Les Israélites ont échoué, mais l'Église de Christ ne doit pas échouer. Toutes choses se soumettent au Christ, parce que c'est le Christ qui est la tête de toutes choses. Et sur toutes choses, il y a l'Église, et au-dessus de l'Église, il y a le Christ. L'Église est le corps de Jésus-Christ. Donc, l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, toutes choses viennent du Christ et ont été créées pour lui. Toutes choses sont dans sa parole. Toutes choses sous son ordre. Et donc, le Christ est la tête de nous, la tête de toutes choses. Donc, toutes choses doivent s'unir autour de Jésus-Christ. En fait, quant à Dieu le Père, lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que toutes choses se soumettent au Christ. Et alors, le Christ se soumet à Dieu le Père à son tour. C'est ce qui est dit dans la Bible. Et finalement, Dieu le Père est glorifié en tant que le Seigneur de toutes choses. C'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà, ce moment viendra, ce sera la fin de ce monde. Donc, tous ceux qui s'endorment vont se lever. À ce moment-là, toutes les autorités de ce monde vont périr. Et le Fils va dédier toutes choses à Dieu le Père. Et nous, nous sommes à son service. Nous sommes donc des serviteurs saints. Donc on ne va pas périr, quoi qu'il arrive, hein, on ne va pas échouer, quoi qu'il arrive, parce que notre Dieu qui est grand nous soutient et nous le servons. Notre Seigneur est l'alpha et l'oméga. Lui, en fait, il faut qu'on se concentre, on se focalise sur Jésus-Christ pour pouvoir vivre seulement par celui qui existe par lui-même. Mais pour cela, il faut qu'on soit formé, entraîné. Hein, ce n'est pas automatique. Et nous sommes en train d'être formés. Et il faut que notre foi soit bien polie de manière remarquable. Le serpent, le diable a séduit l'homme pour que ce dernier essaie de vivre de par lui-même. Ce diable a été déjà jugé, déjà condamné. Donc voilà, les hommes sont pleins de faiblesses, mais ces faiblesses sont venues du diable qui a été déjà jugé par le Christ. Donc nous connaissons déjà le criminel. Hein? Il faut que nous vivions différemment. On peut subir certains préjudices pour le moment, mais il faut que nous choisissions de vivre par la grâce de Dieu. Bien que le monde soit inconvénient, il faut que nous vivions par la grâce de Dieu. On a déjà investi notre vie en Dieu. Et voilà, c'est ça la bonne méthode de vivre dans ce monde. Il faut qu'on choisisse notre Dieu. On peut le faire. Pour cela, il faut que nous vivions par Dieu. Et toute la journée, on doit vivre par Dieu. Pour hériter du royaume des cieux, on a beaucoup de choses à faire. Et on est très occupé, mais il faut supporter une telle vie occupée. Et voilà, je vais vous montrer une parole. Les paroles que je vous montre sont compatibles. Hein. Et d'abord, la vie qu'on vit par la grâce de celui qui vit par lui-même. Ce que nous devons faire, qu'est-ce que c'est? D'abord, numéro un. Si je dis le numéro, vous dites le contenu. 1, la dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes doivent être dédiées d'une manière exacte. En fait, si on a commencé à être aimé de Dieu, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on donne la dîme et les offrandes à notre Dieu. Si on ne donne pas la dîme et les offrandes, notre foi n'est pas correcte. Donc, il faut qu'on sache donner la dîme et les offrandes à Dieu. Vous dites, j'ai la foi. Et donc, en déclarant que nous possédons la foi en Dieu, nous devons savoir donner les offrandes, la dîme à notre Dieu. Il faut qu'on le fasse absolument. Et numéro 2, réussir au culte. Et lorsqu'on rend le culte, il faut qu'on se donne totalement à notre Dieu. Lorsqu'on chante, il faut le faire à voix haute. Lorsqu'on prie, il faut le faire sincèrement. Et lorsque l'on reçoit la parole de Dieu, on doit se lutter, se battre pour que cette parole entre en nous. Et numéro 3, il faut faire le service bénévole. Et parfois, on peut passer la nuit blanche pour faire les œuvres du Seigneur, mais il faut le faire. Il faut le faire. Et numéro 4, il faut garder le nouveau commandement et il faut soigner les autres. Si nous avons reçu la grâce de Dieu, nous devons le faire absolument. Jusqu'au dernier moment, il faut qu'on le fasse. Garder le nouveau commandement, c'est s'occuper des autres. Par exemple, il y a un certain nombre de personnes qui sont tombées en tentation ou qui ont été blessées. C'est pourquoi ils ont quitté l'Église. Donc, il ne faut pas que nous pensions seulement à nous-mêmes. Il faut penser aux autres, il faut les consoler, il faut les soigner. Numéro 5, il faut l'union au sein de l'Église. Donc, il faut qu'il y ait une seule voix à l'Église. Même si j'ai des différentes opinions de celles de l'Église, ce n'est pas important, hein. Mais il faut qu'on sache abandonner ses propres idées pour concéder à l'Église. Numéro 6, prier sans cesse. Si on ne prie pas, et c'est en fait parce qu'il faut que Dieu soit toujours devant nous. Et il ne faut pas qu'il y ait des ennemis. Pour cela, il faut prier sans cesse. Parce que si nous ne prions pas, Dieu ne peut pas être avec nous. Donc, et numéro 7, il faut se préparer en tant qu'évangéliste. Donc, il faut qu'on se prépare pour devenir une église qui évangélise. Donc, pour cela, il faut avoir une compétence qui nous permette de devenir évangéliste. Pour cela, il faut prier, bien sûr. Il faut prier aussi pour que notre Église ne soit plus traitée d'une hérésie. Veuillez vous lever. Alors, décidons-nous à vivre par la grâce de celui qui existe par lui-même. Notre Dieu est l'absolu qui existe par lui-même. Il est éternel. Ce Dieu nous soutient. Donc prions pour que nous puissions vivre selon ses instructions, seulement selon sa grâce, et prions parce que nous avons le privilège de dépendre de lui. Nous sommes à lui, nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses enfants. Alors prions, prions pour que nous puissions jouir de ce privilège.